toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Anne-Sophie Pierry, mais aussi Clément Salzar et Samuel Bernard, à la réalisation Alexandre Fougeron, à la technique Pierrick Mancini. Toute cette semaine, nous allons parler devise, la monnaie qu'on échange, qui rassemble ou qui divise. Demain, vous retrouverez Florian Delorme pour une émission consacrée aux unions monétaires. Zone franc CFA, zone euro, sont-elles vouées à disparaître? Mercredi, on parlera bitcoin et blockchain, ce que le numérique fait à la monnaie. Jeudi, enfin, on se demandera si la monnaie est politique avant même d'être économique. Mais avant cela, dollar, yuan, euro, la guerre des monnaies aura-t-elle lieu? C'est notre sujet ce matin.
If we win on November 8th, I'm going to instruct.
Si nous gagnons le 8 novembre, je chargerai mon secrétaire au Trésor d'étiqueter la Chine comme un manipulateur de devises, le plus grand au monde. N'importe quel pays qui dévalue sa monnaie injustement dans le but de profiter des États-Unis et des entreprises américaines qui ne peuvent pas rivaliser devra faire face à des taxes et des impôts pour les empêcher de tricher. Et quand ils verront cela, alors ils arrêteront de tricher. Parce que sinon, on va leur faire cracher un gros paquet d'argent. C'est moi qui vous le dis.
Donald Trump, pendant sa campagne, c'était en août dernier. Ces derniers mois, le président américain et son équipe ont tour à tour accusé la Chine et le Japon de manipuler leur monnaie, dénoncé l'Allemagne qui profiterait d'un euro sous-évalué et regretté à plusieurs reprises que le dollar soit si fort, contrairement aux intérêts des exportateurs américains. Des déclarations bellicistes qui ont relancé le spectre de la guerre des monnaies, un vieux refrain qui ressurgit à chaque période d'incertitude. Certes, Donald Trump est finalement revenu sur ses propos au sujet de la Chine. Dans une interview au Wall Street Journal mi-avril, il a reconnu que Pékin avait cessé de dévaluer délibérément sa monnaie. Mais alors que la Chine rêve de voir un jour sa devise supplanter le dollar dans les échanges internationaux, la confrontation avec Washington semble sinon imminente, du moins inévitable. Un peu plus de 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a-t-il intérêt à lancer une guerre d'échange? La place croissante du yuan dans les transactions internationales peut-elle vraiment menacer le billet vert américain? Et quel rôle l'Europe peut-elle jouer? Est-elle condamnée à être la victime collatérale du duel Pékin-Washington? Pour en parler, nous recevons ce matin Agnès Benassi-Kéré. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique et professeure à Paris 1. Avec nous également en duplex d'Aix-en-Provence, Dominique de Rambure. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous aussi de nous accompagner ce matin. Vous êtes président honoraire de l'Association bancaire pour l'euro, ancien banquier international et auteur de « La Chine, une transition à haut risque vers une économie de la consommation ». C'était aux éditions de l'Aube. J'aimerais qu'on commence avec cette interview que Donald Trump a accordée au Wall Street Journal le 12 avril dernier. Le président américain a estimé que le dollar devenait trop fort et il a reconnu, je cite, « aimer une politique de taux d'intérêt bas ». On est un peu surpris face à cette déclaration qu'un chef d'État américain s'abstient habituellement de faire afin peut-être de ne pas interférer avec le pouvoir de la réserve fédérale. Un président ne devrait pas dire ça, Agnès Benassi-Kéré?
Ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est les mots « qui dévalue sa monnaie, qui triche », s'appliquant surtout à la Chine qui, ces derniers mois, ces derniers trimestres, est intervenue massivement pour empêcher sa monnaie de se déprécier justement. Puisque en fait ils ont vendu des réserves de change pour faire remonter leur propre monnaie. Donc il est un peu décalé. C'est un débat d'avant. La monnaie chinoise, faut le rappeler, s'est énormément réévaluée, appréciée hein, par rapport au dollar américain de 2005 à 2015, de l'ordre de 30%. Donc les griefs qu'on pouvait avoir au milieu des années 2000, où les États-Unis avaient un énorme déficit, mais vis-à-vis de tous les pays du monde, hein, peut-être on reviendra là-dessus, mais ce qui est important, c'est de regarder le déficit vis-à-vis de la Chine, c'est pas le sujet. Donc la monnaie chinoise s'est énormément appréciée. Et donc aujourd'hui, la Banque centrale de Chine est intervenue beaucoup pour empêcher la monnaie de se déprécier. Elle a même rétabli des contrôles de capitaux. de contrôle d'échange. Et donc, ça vient complètement à contre-courant d'accuser la Chine de manipuler sa monnaie.
Alors, en l'occurrence, dans cette interview, précisément, Donald Trump reconnaît que finalement, la Chine n'a pas véritablement dévalué sa monnaie, même si effectivement, ces accusations ont été émises pendant assez longtemps et en particulier pendant toute sa campagne. Ça vous a étonné aussi, Dominique de Rambure, cette volte-face de Donald Trump qui revient sur ses propos?
À vrai dire, rien ne m'étonne de la part de Donald Trump. D'une part, il utilise des arguments qui sont un peu primaires, disons. Les Chinois spéculeraient pour faire baisser leur monnaie afin de faciliter leurs exportations. C'est faux dans les faits, on vient de les expliquer. En plus, ce n'est pas l'intérêt de la Chine. Donc, en fait, il se trompe de cible. Il y a un problème, c'est vrai, c'est le décalage des échanges entre la Chine et les États-Unis. Mais le problème est évidemment bien ailleurs. Il y a certainement une mauvaise volonté des Chinois, on en parlera peut-être, mais les Chinois utilisent beaucoup de moyens détournés pour subventionner leurs entreprises exportatrices, etc. Donc là, il y a certainement un problème à résoudre et à négocier, mais c'est certainement pas le problème de la monnaie.
On va y revenir un petit peu plus tard, en effet, mais un dollar trop fort, même s'il a un petit peu diminué ces dernières semaines, risque quand même d'entamer la compétitivité des exportateurs américains et de creuser encore le déficit commercial. Or, Trump a été élu sur une baisse des importations et sur une réindustrialisation du pays.
Et oui, c'est toute la contradiction de sa politique. C'est Trump lui-même qui a fait monter le dollar en annonçant des baisses d'impôts et plus de dépenses publiques. Dans une économie qui est au plein emploi, ça fait monter les prix. Donc si les prix ne montent pas, c'est que c'est le dollar qui monte. Mais c'est un mécanisme absolument standard. Ça pousse la réserve fédérale américaine à remonter plus vite son taux d'intérêt. Ça a fait des anticipations de hausse de dollars. Et ces anticipations, hein, c'est très intéressant de voir que le dollar a monté quand Trump a été juste élu. Et il n'avait encore rien fait. Il n'était même pas encore président. Et c'est là que le dollar a monté tout de suite. Donc les marchés anticipent complètement ce qui va se passer ailleurs. Et là, pour le coup, c'est complètement standard par rapport à la théorie très standard de faire monter le dollar.
C'était lié aux annonces, en l'occurrence de Donald Trump, les annonces de ce plan de relance massif dont on ne sait pas si vraiment il va arriver.
Oui, alors là, bon, après, c'est une discussion avec le Congrès, parce que le Congrès, ça, c'est quelque chose que les gens ont sous-estimé au moment de son élection, c'est qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis et le Congrès, notamment, n'aime pas tellement remonter le plafond de la dette. Or, tout le programme repose sur plus de déficit. Là, il vient d'annoncer quand même des baisses d'impôts sur les sociétés tout à fait considérables et en disant que ces baisses seraient autofinancées grâce à un regain de croissance. Bon, ça n'est jamais arrivé. Reagan avait dit la même chose, ça ne s'est pas passé comme ça.
Dominique de Rambure, selon vous, Donald Trump pourrait décider de dévaluer le dollar pour renforcer la compétitivité des États-Unis ?
Ça me paraît difficile, à la fois pour des raisons politiques et économiques. D'abord, depuis 1974, plus exactement, depuis que le président Nixon a décroché la parité or du dollar, toutes les monnaies flottent, suivant les humeurs du marché. Donc, à moins de rendre le dollar inconvertible, ce qui est impensable, puisque le dollar est une monnaie internationale, et je pense que les Américains ne veulent pas renoncer à ce statut, au moins dans les médias, il faudrait rompre avec cette politique. Puis il y a des raisons également économiques. Il faut se dire qu'une dévaluation de la monnaie n'a jamais amélioré les choses, si j'ose dire. Le problème des économies comme les États-Unis ou même la France, c'est que la compétitivité d'un certain nombre d'entreprises, d'industrie, ne sont plus en accord avec le marché international. Ce n'est pas en dévaluant la monnaie que vous allez rétablir cette compétitivité. Une dévaluation n'est effective que dans des conditions très particulières. En fait, ce n'est pas une solution, c'est un simple répit qui est donné aux entreprises pour leur permettre d'améliorer leur compétitivité et de retrouver leur part de marché à l'étranger.
Une solution qui marche ponctuellement, on l'a compris. Dans cette même interview au Wall Street Journal, Donald Trump a annoncé qu'il n'excluait pas de renouveler le mandat de Janet Yellen à la tête de la Banque centrale, alors qu'il n'avait pas cessé de critiquer son action pendant la campagne. Là encore, on a une volte-face, il s'est converti à la politique de la réserve fédérale. Dominique de Rambure ?
Oui, alors, il faut dire une chose d'abord, c'est que aux États-Unis, En principe, comme je viens de l'expliquer, le dollar est abandonné au mouvement du marché, donc le gouvernement n'a pas à intervenir. Deuxièmement, la responsabilité de la politique de change ne relève pas de la Banque centrale, de la Federal Reserve, mais relève du Trésor. C'est au Trésor, lui, qui doit commenter l'actualité. Donc, en principe, il n'y a aucune possibilité concrète, pratique, qui permettrait à Donald Trump de dévaluer sa monnaie. Et j'imagine mal qu'il prenne un pareil risque. Et s'il donne un certain nombre de signaux, dont notamment la possibilité d'une prolongation du mandat de Janet Yellen, je pense qu'effectivement, il revient sur ses engagements de campagne, il nous y est habitué, et il rentre, si j'ose dire, dans les clous, probablement sous la pression de ses conseillers.
En mars dernier, la Réserve fédérale, vous l'avez dit, a relevé ses taux pour la deuxième fois depuis l'arrivée de Trump. La première fois, c'était en décembre. Et il devrait y avoir deux hausses de plus en 2017. Résultat, les taux d'intérêt directeurs pourraient atteindre 1,4% à la fin de l'année. C'était nécessaire, selon vous, Agnès Benassi-Kéré, maintenant que la croissance est de retour, des taux aussi bas ne se justifiaient plus?
Oui, c'est ce qu'on appelle la normalisation de la politique monétaire. Et la Banque Centrale Européenne le fera, pas cette année, mais probablement elle commencera l'année prochaine. Et donc, c'est justement ce décalage entre la Réserve fédérale américaine et la Banque Centrale Européenne qui provoque la hausse du dollar aussi, puisque pendant un certain temps, eh bien, les taux d'intérêt remontent aux États-Unis, mais non en zone euro. Et donc la monnaie américaine étant mieux rémunérée, les actifs financiers américains étant mieux rémunérés avec un taux d'intérêt plus élevé, eh bien les capitaux ont tendance à aller vers les États-Unis où les emprunteurs moins empruntés aux États-Unis, et ça fait monter le dollar. Donc effectivement, pendant la campagne, à un moment donné, il avait dit qu'il voulait un dollar faible et un taux d'intérêt plus élevé pour mieux rémunérer les épargnants américains, mais c'est strictement impossible puisque, comme ça vient d'être dit, le dollar est déterminé par le marché et le président ne fixe ni le taux d'intérêt, c'est la Réserve fédérale américaine, ni le taux de change, c'est le marché.
Quelles conséquences de ce dollar fort pour les autres monnaies et notamment, je pense, aux pays émergents. On sait que les entreprises de ces pays sont souvent lourdement endettées en dollars. Et le risque, c'est justement que les pays, les capitaux investis dans ces pays aillent se recycler en dollars. Pour le dire autrement, est-ce qu'il y a un risque de crise bancaire et monétaire dans les pays émergents, Dominique de Rambure?
Oui, c'est certain. Les pays émergents, beaucoup d'entre eux étant en fait des producteurs et exportateurs de matières premières, ont été très touchés par la crise, puisque la crise a entraîné une baisse de la production, de la demande d'abord, de la production ensuite, et des importations de matières premières, enfin. Donc les pays émergents ont payé un lourd tribut à la crise. Les prix des matières premières se sont effondrés sur le marché, pas seulement le pétrole, pratiquement toutes les matières premières, sauf les métaux rares, mais enfin c'est autre chose. Et par conséquent, ils risquent là aussi d'être touché par une reprise des taux d'intérêt américains qui, évidemment, vont peser sur leurs emprunts pour financer leur croissance. Donc là, il y a effectivement un double risque, mais pour le moment, il reste très mesuré, dans la mesure où nous partons de très bas. Les taux d'intérêt allemands sont à 1%, et même moins que ça. Les taux d'intérêt chinois, par exemple, qui sont obligés de maintenir une marge par rapport au taux américain, précisément pour ralentir la fuite des capitaux. Donc les taux d'intérêt sont aux alentours de 3,5-4%. Mais effectivement, si les taux américains remontent, ça veut dire que tout le monde va être obligé de suivre. Sinon, les fuites de capitaux vont s'accélérer et nous allons avoir effectivement une crise qui risque d'être grave, une crise d'endettement.
Vous êtes d'accord, Agnès Benassi?
Oui, il y a cet aspect de taux d'intérêt, il y a aussi l'aspect de taux de change, tout simplement. Les entreprises dans les pays émergents, en particulier en Asie, se sont beaucoup endettés ces dernières années, notamment directement sur les marchés, ce qu'on appelle en obligations d'entreprise, et beaucoup en dollars. Et donc on voit que là, si le dollar monte, eh bien, ça alourdit la charge de la dette pour ces entreprises. Et leurs marchés ne sont pas forcément en dollars. Leurs marchés peuvent être en monnaie locale. Et là, on voit, c'est un problème classique, quand la monnaie d'endettement s'apprécie, eh bien, y a plus de difficultés pour les entreprises de rembourser ces dettes. Donc là, c'est vraiment la Banque des règlements internationaux a sonné le signal d'alarme sur ces problèmes-là, qui sont un peu un risque en surplomb sur l'économie mondiale.
Venons-en maintenant à l'euro. Après le premier tour de l'élection présidentielle en France et l'arrivée d'Emmanuel Macron au second tour, qui semble avoir rassuré les marchés, la monnaie unique européenne a enregistré une nette hausse et elle est montée à 1,09 $. On est donc proche de la parité entre l'euro et le dollar. Ça vous semble une bonne nouvelle pour l'Europe, Agnès Benassi-Kéré?
Ce qui est important, c'est la compétitivité prix, hein, c'est-à-dire combien valent les produits fabriqués dans la zone euro par rapport aux produits fabriqués dans d'autres États. Et aussi, quel est le pouvoir d'achat. Si vous voulez, ça c'est très important. En fait, la monnaie règle un peu l'équilibre entre compétitivité et pouvoir d'achat. C'est comme une balançoire, alors c'est dommage, on ne peut pas voir. Une balançoire, vous savez, pour les enfants à deux. Quand l'un monte, l'autre descend et vice-versa. Mmh. Et donc, lorsque l'euro est fort, eh bien, la compétitivité prix à court terme se dégrade. Donc la compétitivité se dégrade, mais le pouvoir d'achat des particuliers, des familles, augmente parce que, eh bien, pourront importer l'essence, l'électronique, tout ça, moins cher. Maintenant, si l'euro baisse, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire que la compétitivité s'améliore, les entreprises pourront vendre plus facilement à l'étranger, mais le pouvoir d'achat des familles va diminuer. Et donc, quand on parle de monnaie, on reste sur cette balançoire. Or, le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, si vous voulez, c'est surélever la balançoire de manière à ce que cet arbitrage entre compétitivité et pouvoir d'achat soit meilleur dans le long terme. Et ça, c'est tout le travail sur l'éducation, l'innovation, l'investissement, et qui n'a rien à voir au fond avec la monnaie. Donc, il ne faut pas surestimer le rôle de la monnaie. Dans le long terme, la monnaie, je ne dirais pas qu'elle est neutre, mais disons que le vrai sujet, c'est des sujets d'économie réelle, de structure de l'économie, d'investissement.
Mais est-ce qu'on peut quand même considérer que l'euro est sous-évalué, comme l'a déclaré un conseiller de Trump ? Est-ce que lorsque la Banque Centrale Européenne rachète massivement des dettes publiques, elle ne fait pas de la dévaluation compétitive, Dominique de Rambure ?
Oui, évidemment, on pourrait le présenter comme ça, mais vous savez, je ne suis pas économiste, mais je crois que la notion de taux réel, c'est-à-dire apprécié ou sous-évalué, est très arbitraire. Il n'y a qu'un seul taux, c'est le taux du marché, c'est l'épreuve de vérité. Alors ensuite, on peut discuter pour savoir s'il est trop haut, trop bas, ceci ou cela. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. D'ores et déjà, vous avez un certain nombre de sociétés chinoises, notamment de sociétés d'État et en particulier de groupes immobiliers qui sont en très grande difficulté de paiement parce que, comme on l'a dit très justement, ils ont emprunté en dollars et maintenant ils ne peuvent plus rembourser. Alors un certain nombre d'entre eux, pour essayer de couvrir ce risque de change, ont acheté des actifs immobiliers en dollars, aux États-Unis notamment, mais aussi beaucoup en Europe. Mais l'État a été obligé d'intervenir pour soutenir un certain nombre d'entreprises qui ne sont plus en mesure de rembourser leurs prêts en dollars du fait de la remontée des taux.
Agnès Benassi-Kéré.
Oui, tout ça nous amène au sujet de la guerre des monnaies. Qu'est-ce que c'est au fond la guerre des monnaies ? Et la guerre des monnaies, ça n'est pas le fait que la Banque Centrale Européenne pratique une politique monétaire extrêmement expansionniste pour empêcher la zone euro de sombrer dans la déflation. Mmh. Ça, c'est une politique normale qui n'a rien à voir avec la guerre des monnaies. La guerre des monnaies, c'est vraiment essayer d'aller prendre des parts de marché à un autre pays quand les deux pays sont dans la même situation. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La zone euro est un peu seule dans son marasme. Ce n'est pas tout à fait un marasme d'ailleurs, puisque la croissance repart, mais mollement. Et donc, la Banque Centrale Européenne continue à soutenir la croissance, mais pour des objectifs internes. Ce n'est pas pour aller prendre des parts de marché dans les autres pays, c'est pour des objectifs internes. Et donc, on ne peut pas véritablement parler de guerre des monnaies. Et le concept de guerre des monnaies n'est pas très bien défini, au fond. Il faudrait vraiment que, en 2009, on aurait pu imaginer, effectivement, quand l'économie mondiale s'est effondrée, eh bien là, on aurait pu parler de guerre des monnaies si, par exemple, en Europe, on avait eu des monnaies séparées. En 2009, certainement qu'il y aurait eu une guerre des monnaies avec des dévaluations compétitives en Italie, en Espagne, après en France, etc., avec un jeu à somme nulle. Là, on est dans la guerre des monnaies. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de ça. Et c'est un peu dangereux. Dans le cas des États-Unis, c'est carrément caricatural parce que les États-Unis regardent les pays un par un et regardent le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de ces pays. Ils disent « Ah, la Chine !» Mais imaginez la chose suivante. Vous avez un smartphone. 90 dollars ont été produits en Corée. Et ce smartphone qui est presque fini est exporté par la Corée en Chine, qui rajoute 1 euro de valeur ajoutée et qui vend 100 dollars aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est une importation de 100 dollars. Et ils vont trouver que c'est insupportable et qu'ils ont un déficit avec la Chine. Mais le vrai déficit, il est avec la Corée, pas avec la Chine, qui a mis 1 dollar seulement, alors que la Corée en a mis 99. Donc ce concept bilatéral n'a aucun sens, en fait. Et ce qu'il faut regarder, c'est la compétitivité en termes de part de marché à l'export, à l'import, mais vis-à-vis de l'ensemble du monde.
On parlait de cet euro faible. On sait que la croissance de l'Allemagne s'appuie principalement sur ses exportations. Donc on peut imaginer qu'un euro faible est une bonne chose pour elle. C'est moins le cas pour la France, puisque vous le rappelez dans un article, Agnès Benassi-Quéré, les exportations de la France hors zone euro, ce seraient donc les seules pour qui une dépréciation de l'euro aurait un impact, ne représentent que 11% du PIB français. Donc c'est pas vraiment cela, ou en tout cas pas seulement cela, qui pourra relancer notre économie à l'heure actuelle.
Oui, alors là, donc en plus, il y a des... à la fois, ça ne peut pas relancer l'ensemble de l'économie, c'est le secteur exportateur seulement. Donc, grosse partie de l'économie française, c'est l'économie qu'on appelle du secteur abrité, les services qui sont rendus à l'intérieur du pays ou à l'intérieur de la zone euro. Et là, l'effet perte de pouvoir d'achat joue à plein. Parce que si vous payez plus cher votre essence parce que l'euro a baissé, eh bien vous allez peut-être couper dans les dépenses de loisirs, de transport, de théâtre ou que sais-je. Et donc là, il y a aussi cet effet-là qui atténue l'impact d'une dépréciation de l'euro. Bon, c'est clair que la zone euro aujourd'hui est dans une situation économique qui est plus faible que la plupart des économies. Bon, je mets le Japon de côté. Et donc, un euro faible fait sens. Et il est faible par rapport, à la période historique. Hein. Il faut rappeler qu'il a été mis en circulation à 1,2 dollars par euro. Il est passé à 0,8 en 2000 et il est monté jusqu'à 1,5. Et puis il est redescendu à 1,06 à peu près aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a eu des hauts et des bas.
Beaucoup de fluctuations.
C'est normal, c'est normal. Donc cette valeur faible est plutôt bien. Mais il faut se rappeler que la zone euro a un énorme excédent. Hein, qui n'est pas aussi gros que le Japon, mais qui est important quand même. Et donc ça, dans le long terme, ça fait quand même une hausse tendancielle de l'euro.
Dominique de Rambure, comment se positionne l'Europe dans ce duel qui oppose Washington à Pékin? Une quinzaine de pays européens participent par exemple à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures gérées par la Chine. Ça, c'était un formidable pied de nez aux Américains.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des raisons très pratiques à cet engouement pour la Banque de développement chinoise, la BA2I. Il y a une raison très simple, c'est que s'ils veulent avoir accès aux marchés très considérables qui vont suivre pour le financement des infrastructures dans les pays en voie de développement, etc., il faut évidemment que les pays participent au financement, c'est-à-dire à la banque. S'ils n'avaient pas fait, nos entreprises auraient pu être exclues de ces appels d'offres. Bon, ceci dit, il y a quand même une vision stratégique qui est plus intéressante. Je dois dire que lorsque la Chine crée la BA2I pour financer des investissements dans cette région, elle est évidemment, c'est une stratégie beaucoup plus sympathique, j'allais dire, que celle qui consiste à occuper des îlots dans la mer de Chine, qui, réfléchissez-y, est un peu dans le même objectif, si j'ose dire. Donc je pense que aujourd'hui, les économies sont beaucoup trop entremêlées pour que l'on puisse parler de guerre. Quand on parle de guerre des monnaies, ça fait un peu guerre des mondes. On a connu ça avant la guerre, au moment de la crise des années 30. Tous les pays se sont repliés sur eux-mêmes, convaincus que ce serait plus facile à résoudre et à résister à la crise si on revenait à l'intérieur des frontières qu'en restant ouvert. C'est un peu un langage que l'on connaît aujourd'hui. Or, ce retrait n'a fait qu'aggraver la crise et qu'a enfoncé l'ensemble de l'économie mondiale jusqu'à la guerre qui a été le point de dénouement de cette grave crise politique, militaire, économique.
Un dernier mot sur la zone euro. La fragilité de l'euro, on le sait, c'est aussi d'abord peut-être l'absence de gouvernance. Pour l'instant, l'Allemagne est très réticente à aller dans ce sens. Mais est-ce que cela pourrait évoluer dans l'hypothèse où Emmanuel Macron serait élu et Martin Schulz, le leader du SPD, remplacerait Angela Merkel à l'automne prochain, Agnès Benassi-Quéré?
Alors, c'est pas tout à fait une monnaie sans gouvernance. Il y a une Banque Centrale Européenne qui a une gouvernance extrêmement bien calibrée. Il y a un Parlement Européen qui contrôle la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est pas tout à fait sans gouvernance.
Une défaillance voilà. De gouvernance, disons.
Ce qui est particulier dans la zone euro, et c'est une source de beaucoup de nos problèmes, c'est que l'euro est une monnaie sans État. Et en fait, si vous y réfléchissez, ça pose pas mal de problèmes. Pourquoi ? Ça pose un problème aujourd'hui parce que on n'arrive pas à coordonner la politique monétaire et la politique budgétaire. C'est-à-dire qu'on voit que la Banque Centrale Européenne, toute seule, a du mal à faire redémarrer la zone euro, pendant que les gouvernements sont occupés à réduire leurs dépenses publiques et rétablir leurs équilibres. Donc, on n'a pas de coordination de la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique budgétaire pourrait venir aider à certains moments, pas aujourd'hui, mais peut-être en 2012-2013, ça aurait été très utile que la politique budgétaire vienne aider. Donc on a ce problème-là, on a aussi ce problème pour les banques, c'est-à-dire que les banques ne peuvent pas détenir un actif sans risque, comme les bons du Trésor américain, et ça pose des problèmes de stabilité du système bancaire. Donc il y a vraiment, ça c'est vraiment le cœur de ce qui va devoir être réglé. Je pense que les Allemands aujourd'hui le comprennent. Ce qu'ils ne veulent pas, surtout, c'est une mutualisation sauvage des dettes. Mais je pense qu'on est, on a un peu dépassé ce débat. Et moi, je suis quand même relativement optimiste si on arrive donc à renouer le débat avec les Allemands sur nos nouvelles bases.
France Culture, Culture Monde, Tiphaine de Roquigny.
Toute cette semaine, Culture Monde s'attaque à la monnaie, aux monnaies. Et ce matin, on parle de la rivalité entre le yuan et le dollar avec Agnès Benassiquéré et Dominique de Rambure. On disait tout à l'heure que Donald Trump avait effectivement renoncé à accuser la Chine de dévaluer volontairement sa monnaie. Mais ces accusations n'étaient pas complètement infondées. Je voudrais qu'on revienne là-dessus et sur cette période pendant laquelle la Chine a longtemps pratiqué la dévaluation compétitive de sa monnaie, en particulier entre 2000 et 2010. Mais à l'été 2015, le yuan chute brusquement. C'est à ce moment-là, Dominique de Rambure, que la Chine modifie sa politique monétaire ?
Non, elle n'a pas modifié sa politique monétaire, parce que j'imagine qu'elle n'est pas prévue que sa monnaie allait, s'effondrer, mais baisser, alors que on avait déjà des signes sur le marché depuis plusieurs mois. Lorsque les autorités chinoises ont été confrontées à cette baisse du yuan, mais pour d'autres raisons, ils ont, si on peut dire, très mal intervenu. C'est-à-dire qu'ils ont laissé traîner le problème. La baisse n'était pas très importante. Le premier jour, elle était de 3%. Alors que la limite de fluctuation du yuan est de 2%. Donc ils auraient pu intervenir en mobilisant les réserves de change. Simplement, ils ont traîné, ils ont attendu, ils ont négocié, parce qu'il y avait deux écoles qui s'affrontaient au sein du pouvoir. L'une représentée par le gouverneur de la Banque centrale, Xiao Xuan, qui est favorable au marché, au fonctionnement du marché. Tôt ou tard, les marchés reviendraient à la normale, entre guillemets. Et puis, il y avait une autre doctrine, qui est une constante dans les autorités chinoises, qui était représentée par le ministre des Finances, Li Jiuwei, qui d'ailleurs vient de passer la main, ce qui est un signe, qui lui était plutôt partisan de l'intervention de l'État. Donc il a fallu trouver quelque chose entre les deux. Le gouvernement a tout de même dépensé près d'un milliard au total de dollars, puisque les réserves de change sont passées de 4 000 milliards à 3 000 milliards, pour freiner cette chute. Donc je pense que le problème n'est pas maîtrisé, mais il est sous contrôle.
Là où l'accusation de Donald Trump paraît encore moins crédible, c'est que la Chine n'a pas du tout intérêt aujourd'hui à dévaluer sa monnaie. Ça mettrait à mal sa stratégie de rééquilibrage économique qui pousse à plus de consommation domestique et aussi à une industrie à plus forte valeur ajoutée, Dominique de Rambure.
C'est tout à fait vrai. Non seulement vous avez une contrainte domestique, comme vous le dites, les autorités chinoises essayent de transférer leur politique d'une politique de stimulation par les investissements à une politique de stimulation par la demande. Mais il faut dire aussi que la technostructure, toutes les entreprises d'État, etc., freinent des cas de fer parce qu'ils sont habitués à ce que l'État intervienne pour financer des investissements et relancer. Donc c'est un problème qui est non seulement difficile économiquement, mais aussi politiquement. Il faut que Xi Jinping, contrairement à ce qu'on pense, parvienne à convaincre ses collègues. Alors il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, qui est une dimension politique ou même militaire. La Chine entend devenir non pas une puissance mondiale, comme on le dit, mais certainement une puissance régionale. C'est-à-dire il faut écarter les États-Unis de la mer de Chine pour que la Chine retrouve l'influence qui était la sienne jusqu'au milieu du 19e siècle. Bon, alors, une politique extrêmement élaborée qui comprend une dimension militaire, on en a parlé, ils viennent de lancer un deuxième porte-avions, une politique diplomatique qui cherche à rassembler les pays voisins, une politique monétaire également. Alors, on l'a vu avec la création de la BA2I, mais on l'a vu également avec le développement de l'utilisation du yuan dans les relations internationales, particulièrement avec les pays voisins.
Vous vouliez réagir, Agnès Benassiquéré ?
Ben oui, parce que quand même, il faut rappeler que l'excédent chinois a été divisé quasiment par 10 de 2007 à 2017. Donc, enfin bon, c'est de l'année 2007, n'est pas terminée, mais on était presque à 10% du PIB d'excédent en 2007, et ça s'est ça a beaucoup diminué. Donc ça, c'est un point très important. Dans le même temps, les États-Unis ont réduit leur déficit. On parle du déficit américain, mais il était presque de 5% du PIB en 2007. Aujourd'hui, c'est plutôt de 2,5%. Donc on a beaucoup réduit. Et ça, mécaniquement, bah, ça provoque une baisse du yuan et une hausse du dollar. Donc tout à ça n'est pas du tout surprenant. Si vous rajoutez à ça le ralentissement de l'économie chinoise, qui ne croit plus à 10% mais à 7%, eh bien, les investisseurs étrangers sont moins intéressés. Donc, il y a moins d'entrées de capitaux. Donc, ça aussi, ça participe à la baisse du yuan. Donc, c'est une force. On peut chercher à la ralentir, mais c'est quand même une force de fond.
On parlait tout à l'heure de critiques infondées. Il y a une accusation à l'égard de Pékin qui serait peut-être plus légitime. C'est le fait que les Chinois investissent massivement à l'étranger, tout en mettant des restrictions sur leur propre marché. Les États-Unis, comme l'Europe, seraient en droit d'exiger plus de réciprocité, Agnès Benet.
Oui, alors, donc ça a un rapport aussi avec les contrôles d'échange et avec ce sujet de l'internationalisation du renminbi. À la fois les autorités...
L'autre nom du yuan.
Le yuan. À la fois les autorités veulent internationaliser le yuan, c'était très clair, et ils ont fait beaucoup de pas, même si ça reste petit, mais quand même ça augmente très vite. Mais en même temps, ils soufflent le chaud et le froid. Ils ont rétabli récemment pas mal de contrôles d'échange. Donc ça, c'est pas favorable à l'internationalisation de la monnaie.
Ils jouent un double jeu.
Et puis, ils rassurent pas les... Parce que le problème en Chine, c'est que la sécurisation des investissements. C'est-à-dire que les entreprises étrangères savent pas trop à quelle sauce elles vont être mangées, s'il y a des problèmes avec les contrats, toutes sortes. Donc ça, là, ils sont en train de se heurter à l'un des facteurs d'internationalisation qui a été montré comme un facteur très important, hein, qui est la stabilité financière, la régulation, la qualité de la régulation. Hein, si vous voulez, il y a à peu près 5 critères qui font qu'une monnaie peut devenir internationale. Il y a la taille, donc là, ils sont bons. Il y a les marchés financiers, le développement des marchés financiers, leur stabilité, leur régulation, là, ils sont pas bons. La stabilité de la monnaie, ça, là, ils sont quand même relativement bien. La stabilité financière, ils sont pas bien du tout. Et le pouvoir non économique, et là, ils sont très bons, notamment par rapport à la zone euro, qui est très mauvaise.
Dans cette route vers cette internationalisation du yuan, la Chine a franchi un pas décisif.
L'addition du yuan dans le panier de devises est une reconnaissance des réformes importantes qui ont été faites et de l'ouverture significative de l'économie chinoise avec des principes d'économie de marché qui sont utilisés désormais par les autorités chinoises.
Christine Lagarde, la directrice du FMI, en décembre 2015, le Fonds monétaire international décide alors d'accueillir le yuan, ou le renminbi, son autre nom, dans le club très fermé des monnaies de réserve du FMI, celles qui composent les DTS, les droits de tirage spéciaux. Jusqu'ici, seuls le dollar, le yen, l'euro et la livre britannique avaient ce privilège. C'est une excellente nouvelle pour la Chine, comme nous l'explique Ding Yifan, qui est chercheur à l'Institut d'études de stratégie nationale de l'Université Tsinghua et conseiller du gouvernement chinois. Nous l'avons joint hier par téléphone à Pékin. Je vous invite à tendre l'oreille. La liaison n'était pas très bonne.
C'est bien sûr une bonne chose pour la Chine, parce que sa monnaie est devenue en quelque sorte une monnaie de réserve. Et les banques centrales de tous les pays membres du FMI sont obligées de réserver une partie de la monnaie chinoise comme monnaie de réserve. Ça facilite l'internalisation ou l'usage international de la monnaie chinoise. Et de ce point de vue, la Chine en profite. Et je pense que vu l'état de santé de la croissance économique de Chine avec le reste du monde, on a toutes les raisons de penser que finalement, dans 5 ans, la monnaie chinoise aura une position beaucoup plus importante dans le système monétaire international.
Depuis plusieurs années, la Chine est engagée dans une stratégie pour internationaliser sa monnaie afin de mettre fin à sa dépendance envers le dollar. Alors le yuan ne représente que 2,5% des échanges internationaux contre 29% pour l'euro et 43% pour le dollar. Mais il est en train de devenir une devise mondiale pour le commerce avec laquelle il faut compter, Ding Yifan.
Ça a commencé, disons, après la crise financière internationale, après 2008, surtout en 2009-2010, avec la crise de dette en Europe. La Chine réalise que finalement, il y a un besoin sur le marché de capitaux internationaux qui fait appel à la monnaie chinoise. En dehors de ça, il y a aussi le besoin chinois de diversifier les risques. Parce que la Chine a une énorme réserve de devises composée des monnaies étrangères, en particulier le dollar et l'euro. Ce qui ne facilite pas la distribution de sa richesse. Mais il y a autre chose, parce que maintenant, il faut reconnaître que l'économie mondiale est morose. Ça manque, disons, de force, de tirage. On ne sait pas d'où vient la force qui pourrait pousser un peu l'économie mondiale en avant. Et de ce point de vue, le gouvernement chinois avait fait avancer une initiative appelée une ceinture et une route, c'est-à-dire une espèce d'initiation du renouvellement de l'ancienne route de la soie qui relierait la Chine à l'Europe en traversant tous les pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie centrale, etc., etc. Donc c'est un projet ambitieux d'investissement de grande envergure dans les infrastructures, etc. Et ça contribuerait à la croissance ou à la reprise de la croissance mondiale. Et ce projet est financé en grande partie par la Chine. Et donc cela pourrait éventuellement faciliter l'internationalisation de la monnaie chinoise, comme le plan Marshall avait facilité aussi l'usage du dollar par les pays européens.
Et ça, Ding Yifan, ça va passer par la nouvelle banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui a été lancée officiellement par la Chine il y a plus d'un an. L'objectif, c'est donc de financer les infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications en Asie. Et parmi les membres fondateurs, on trouve des alliés économiques traditionnels des États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Brésil. On est loin de la sphère d'influence de la Chine. C'est une grande victoire sur Washington.
C'est ça, il y a une espèce de rivalité. On pense qu'une certaine rivalité ou une certaine concurrence est saine pour le marché, quoi. Il y a certainement une certaine concurrence entre les États-Unis et la Chine sur le marché international. En fait, non seulement la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, mais il y a aussi la nouvelle banque de développement créée par les pays BRICS. Ça aussi, c'est une autre institution financière qui pourrait aider la réalisation des projets dans tout cela.
Donald Trump a accusé à plusieurs reprises la Chine de maintenir un yuan trop bas pour doper ses exportations. Le président américain est finalement revenu sur ses propos, mais le ton est donné. Trump part à l'affrontement avec Pékin. Est-ce que ça suscite des inquiétudes du côté du gouvernement chinois? Et quelle stratégie, selon vous, devrait être adoptée face à un président aussi ouvertement offensif?
Oui, je pense que à mesure qu'il assume son pouvoir à la Maison-Blanche, il comprend que les relations entre les États-Unis et la Chine sont des relations d'interdépendance, non seulement dans le domaine monétaire. Dans le domaine monétaire, les États-Unis ont tout de même besoin de la Chine pour maintenir le niveau d'endettement. La Chine est le plus grand détenteur de dettes du gouvernement américain. Il y a ça aussi, il y a beaucoup de choses. Et en plus, les entreprises américaines ne peuvent pas se passer de la Chine dans ce qu'on appelle la production ou la chaîne globale de valeur. Donc les entreprises américaines sont trop impliquées dans le marché chinois et dans la structure de l'économie chinoise, dans sa disposition mondiale. Ce sont des slogans qu'il avait utilisé pour sa campagne, c'est tout. Il y aura une espèce de concurrence, je crois, paisible, peaceful. Donc, une espèce de concurrence qui est plutôt amicale et saine.
Ding Yifan, chercheur à l'Institut d'études de stratégie nationale à l'Université Tsinghua de Pékin et conseiller du gouvernement chinois. Une première réaction, Dominique de Rambure, sur cette volonté de Pékin de devenir une monnaie de référence.
Oui, alors ça c'est certain, la Chine, et c'est l'avantage des pays avec un gouvernement très centralisé. Ils poursuivent depuis de nombreuses années une politique constante, raisonnée, poursuivie, quels que soient les nouveaux dirigeants, pour l'internationalisation du yuan. Alors, ceci se passe par plusieurs étapes. La première, c'est la création d'un marché monétaire mondial, de telle sorte que tout le monde, ou un marché d'échange, si vous voulez, de telle sorte que tout le monde puisse se procurer du yuan. Ça, ça a été fait, avec principalement à Hong Kong, mais aussi à Londres et même à Paris. La deuxième étape, c'est bien entendu d'inciter les entreprises à utiliser le yuan comme monnaie de transaction pour les échanges commerciaux, ceci est en progression. Alors, comme d'habitude, les autorités utilisent l'instrument, comment dirais-je, directif, planifié. Ils ont demandé à toutes les entreprises d'État d'utiliser le yuan dans leurs échanges extérieurs, mais ça n'a pas tellement réussi, puisque la part des échanges extérieurs, des exportations financées en yuan a baissé après un départ assez prometteur. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les transactions ne représentent que 2% de l'ensemble des transactions de change, qui est peu. Dernière étape de la fusée, les marchés financiers. Là aussi, le gouvernement chinois a fait de très gros progrès. Mais il reste que le yuan n'est pas une monnaie convertible. Il y a encore des obstacles à son utilisation, si bien que la part des marchés financiers, prenons par exemple le marché obligataire, ne représente que 2% du marché obligataire mondial, ce qui est très, très peu de choses.
Il y a encore beaucoup d'étapes vers une pleine convertibilité du yuan, Agnès Benassi-Kéré.
Il y a deux problèmes. Il y a d'abord un problème arithmétique, qui est que tant qu'il y a un excédent extérieur, ça veut dire que les entreprises vendent plus à l'étranger qu'elles ne achètent à l'étranger. Du coup, il peut y avoir une volonté politique de développer l'usage du yuan pour le commerce international, mais il faut quand même que les clients aient des yuan pour payer leurs fournisseurs chinois. Et là, comme le commerce chinois est déséquilibré, ça marche pas. Donc, du coup, le gouvernement, enfin, la Banque centrale a développé ce qu'on appelle les accords de swap, où, en fin de compte, la Banque centrale prête des yuan contre une autre monnaie, donc avec un certain nombre de banques centrales partenaires, hein, pas seulement dans les pays émergents, mais
lesquels,
bon,
par exemple
la Banque d'Angleterre, par exemple, a un accord de swap, je crois. Et donc ça permet de développer, mais bon, c'est quand même assez petit. Le deuxième problème, il est plus la peur un peu de la découverte de l'économie de marché. Mm-hmm. Les Chinois découvrent que les marchés financiers, ça monte et ça baisse, et qu'il peut y avoir des mouvements violents dans la monnaie, mais aussi sur la bourse, sur les marchés obligataires et tout ça. Et donc, il y a eu des épisodes qui n'ont pas tellement rassuré les marchés financiers internationaux, où quand ça bougeait trop, le gouvernement décidait de suspendre les cotations. Donc ça fait beaucoup de mal à l'internationalisation du yuan.
L'objectif de Pékin, c'est moins de prendre la place du dollar que de mettre en place un système monétaire multipolaire où le yuan aurait autant sa place que le billet vert américain, Dominique de Rambure.
Oui, alors je pense que ça passe d'abord par ce que j'ai appelé une puissance régionale. La Chine veut devenir la puissance régionale d'Asie du Sud-Est dans tous les domaines politiques, diplomatiques, militaires, économiques et monétaires. Bon, cette première étape acquise, je pense effectivement qu'à plus long terme, et là je suis pas bien placé pour vous dire quand ça arrivera, au rééquilibrage du système monétaire international autour des trois monnaies dominantes, c'est-à-dire le dollar, l'euro et le yuan. Mais pour le moment, on voit mal cette situation se définir. Comme on vient de l'expliquer, l'euro n'a pas d'État, il n'a pas même de gouvernement, à part la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas une institution élue, qui est composée de fonctionnaires. Donc évidemment, il y a un problème de légitimité, si j'ose dire. Du côté du yuan, il y a cette faible... Le yuan n'est pas une monnaie convertible, donc il est peu disponible à l'étranger. Si le yuan a finalement été inclus parmi les monnaies du FMI, les SDR, c'est pour des raisons plus politiques que pratiques. Et ça n'aura probablement pas d'effet immédiat, parce que les banques centrales avaient déjà depuis longtemps anticipé ce mouvement et par conséquent inclus les yuan dans leurs réserves de change. Donc je crois qu'il y a encore un long chemin avant que d'une part le yuan devienne une véritable monnaie internationale et que d'autre d'autre part, les grandes puissances monétaires se réunissent autour d'une table pour essayer de construire un nouveau Bretton Woods où il conviendrait des moyens de gouverner le marché international, le marché monétaire international.
J'allais y venir. La question qui est derrière tout ça, c'est effectivement cette organisation ou peut-être cette non-organisation du système monétaire international. On va voir ça dans un instant. Ce système qui est né, comme vous l'avez dit, à Bretton Woods en juillet 44.
Les représentants de 28 pays, dont Lord Halifax pour le Royaume-Uni, se rencontrent dans une salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Washington afin de signer les accords monétaires de Bretton Woods. Représentant le président Truman, le secrétaire du Trésor, M. Vinson, a signé l'accord pour les États-Unis. Il s'agit d'un groupe de nations de bonne volonté qui adhèrent aux accords. Pour résumer l'importance de Bretton Woods, M. Vinson déclare :
Nous pouvons être reconnaissants du fait que l'histoire que nous sommes en train d'écrire ne soit pas un autre chapitre dans la chronique presque sans fin de la guerre et des frappes. La nôtre est une mission de paix, pas un soutien de pure forme à une idée de paix, mais une action. Une action concrète, destinée à établir les fondations économiques de la paix, construite sur le socle d'une véritable coopération internationale.
La conférence de Bretton Woods, donc, qui donne naissance à deux institutions, le FMI et la Banque mondiale, chargées de garantir la stabilité financière internationale et d'éradiquer la pauvreté. 70 ans après, est-ce qu'il faut penser reconstruire le système monétaire international pour éviter justement cette menace récurrente d'une guerre des monnaies dont on parlait tout à l'heure? Le dollar doit rester la monnaie internationale, Agnès Benassiquéré?
Alors, reconstruire le système monétaire international, non. Mais le système monétaire international va évoluer, c'est inévitable et c'est souhaitable. Aujourd'hui, on a un système économique qui est devenu multipolaire, hein, avec trois pôles, Amérique, Europe et Asie. Et on a un système monétaire qui est unipolaire, avec seulement le dollar. L'euro s'est internationalisé, mais c'est quand même faible par rapport aux États-Unis. Et pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que les États-Unis deviennent petits dans ce monde. Ce monde qui a besoin de beaucoup de liquidités. Et cette liquidité, ils vont la chercher tous aux États-Unis. Et les États-Unis, du coup, ça les incite à en émettre énormément. Et donc, ça maintient les taux d'intérêt relativement bas aux États-Unis. Et ça, c'est pas tenable dans le long terme parce que ça va mener les États-Unis, en fait, à une crise. À un moment donné, on ne sait pas quand. Et si on laisse faire comme ça, parce que les États-Unis deviennent trop petits pour nourrir en liquidité l'économie mondiale. Donc c'est là le problème.
FMI pourrait jouer, pardon, ce rôle de coordination des grands États en matière monétaire. Et dans cela, est-ce qu'il faudrait qu'ils disposent d'un pouvoir de sanction?
Donc revenir à un régime de change fixe comme l'était le régime de Bretton Woods, je pense que c'est une vue de l'esprit. On n'y arrivera pas à moins de remettre des frontières pour les mouvements de capitaux, des frontières très très étanches. Ça va être très difficile maintenant que l'économie est devenue numérique en particulier. Donc ça va être vraiment difficile. Je pense qu'en revanche, donc il y avait ce rêve du FMI. Donc le FMI joue un rôle très important aujourd'hui déjà.
Hein. De régulation, de coordination?
Pas tant de coordination, enfin de coordination un peu, mais il joue toujours un rôle. Il ne faut pas oublier tous les pays émergents, et il y en a maintenant en Europe. Hein. Donc il a joué un rôle très important en Grèce, par exemple. Donc le FMI a comme mission d'aider des pays qui ont des problèmes de liquidité, qui n'arrivent pas à payer leurs importations transitoirement ou définitivement. Donc si c'est définitivement, ça va être contre un programme d'ajustement. Et si c'est transitoirement, ben, y a des lignes de précaution qui sont là pour les aider. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui a été mis en place au sortir de la guerre pour permettre le développement du commerce. Parce que, évidemment, si le commerce ne pouvait pas se développer librement, s'il y avait un doute sur la capacité des pays à payer effectivement leurs importations.
Dominique de Rambure, est-ce que les DTS, les droits de tirage spéciaux, on va expliquer ce que c'est, cet actif de réserve pour les États, pourraient devenir une monnaie utilisable sur le marché? Qu'est-ce que ça permettrait?
Bon, on n'en est pas là et on en est même loin. Je prendrai la comparaison avec l'euro. L'euro, avant l'euro, il y avait l'écu. L'écu était une monnaie de compte qui servait à comptabiliser les dépôts des différents pays et les réserves. À l'échelle mondiale, les droits de tirage spéciaux sont uniquement utilisés en termes comptables pour répertorier toutes les transactions qui sont effectuées par le FMI. C'est purement comptable. Pour que les SDR deviennent une monnaie de transaction, à mon avis, il y a là un saut qui est difficile à envisager dans l'immédiat, en tout cas. On peut parfaitement imaginer que dans une étape, et d'ailleurs ça a déjà existé, que des émissions obligataires, par exemple, puissent être libellées en droits de tirage spéciaux. C'était même déjà arrivé, ça pourrait se développer. On peut imaginer que certains pays utilisent les droits de tirage spéciaux pour, en quelque sorte, un index pour éviter une dégradation de leurs échanges, pour faire face aux mouvements de change. Mais dans l'immédiat, on voit mal que les droits de tirage spéciaux deviennent une monnaie comme les autres, utilisée couramment sur le marché.
Agnès Benassiquéré, sur ces droits de tirage spéciaux, ces DTS.
Les droits de tirage spéciaux, c'est plus que juste une unité de compte. Hein. Ils ont été créés dans les années 60, justement, pour compenser le fait qu'il n'y avait pas assez de liquidité dans l'économie. À l'époque, les monnaies étaient fixes par rapport à l'or, il n'y avait pas assez d'or, et donc il y avait des problèmes de liquidité. Et l'idée, c'était que ça devienne une monnaie très, très importante. En cela, on a échoué. Mais ça joue un rôle, si vous voulez, le DTS, c'est pas une monnaie, c'est une promesse de monnaie. Donc, il y a une allocation qui est faite à tous les pays qui sont membres du FMI. Ils ont cette promesse de monnaie. Donc, tout le monde a droit à sa promesse de monnaie. Et il peut aller apporter cette promesse à l'une des banques centrales dont on a parlé tout à l'heure, qui sont dans le panier. Donc, le Royaume-Uni, la zone euro, les États-Unis, le Japon et aujourd'hui la Chine. Et donc la banque centrale a l'obligation de changer cette promesse en vraie monnaie, qui va être, selon le cas, eh bien, du dollar, de la livre sterling, etc. Donc ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet justement, dans l'idée d'éviter des crises de liquidité pour les pays qui ne peuvent pas payer leurs importations, ils ont ces DTS, ils ont une espèce de petit coffre-fort là, qu'ils vont pouvoir utiliser pour ces périodes de crise. Alors, c'est souvent pas assez, et donc le FMI doit prêter et puis mettre en place un programme d'ajustement, mais c'est destiné hein, à être utilisé pour cette raison. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le gouverneur de la Banque centrale de Chine, il y a quelques années, avait dit « Oh, il faut relancer le DTS ». Et c'est comme ça qu'il est. Et puis, bon, il a vu que ça avait fait un peu un flop, et du coup, l'alternative, c'est de développer le yuan comme monnaie internationale.
Un mot de conclusion, Dominique Derambure, on arrive presque au terme de cette émission.
Mais écoutez, je crois que la guerre des monnaies, effectivement, dans l'immédiat, ça me paraît peu vraisemblable. Je pense surtout que les liens entre la Chine maintenant fait partie de l'économie mondiale, et les États-Unis ne peuvent plus prendre des mesures unilatérales. En revanche, je pense que dans l'avenir, il y aura effectivement des déséquilibres de pays à pays. On en a parlé, qu'il faudra corriger d'une manière ou d'une autre. Et là, le FMI ne peut pas faire face à toutes ces tâches. C'est un, comme on l'a expliqué, ils fournissent de la liquidité pour les pays qui sont en difficulté, mais il y a un certain nombre de limites et il faudrait un pouvoir, sinon politique, du moins très intégré pour pouvoir gérer ce prêteur de dernier retour international, si j'ose dire.
Agnès Benassiquéré.
Oui, alors ce terme de guerre des monnaies, il est évidemment apparu en référence à la guerre commerciale, hein, qui est une guerre des droits de douane, qu'on voit aussi réapparaître. Donc c'est intéressant de faire le parallèle. Le droit de douane, ça peut être vraiment une décision d'un gouvernement ou d'un ensemble de gouvernements. Pour l'Union européenne, c'est un ensemble de gouvernements. Et alors que la guerre des monnaies, bon, bah, un taux de change, c'est pas un gouvernement qui le fixe. Il faut bien avoir ça en tête, c'est pas tout à fait la même chose. On n'appuie pas sur un bouton et pour voir le taux de change varier dans le sens qu'on voudrait. Donc, c'est les surprises du marché.
Les surprises du marché, ce sera le mot de la fin. Un immense merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour tenter de comprendre les failles de notre système monétaire international. Agnès Benassiquéré, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, professeure à Paris 1. Je cite votre dernier ouvrage, Économie monétaire internationale, paru chez Economica en 2015. Et Dominique Derambure, président honoraire de l'association bancaire pour l'euro et auteur de La Chine, une transition à haut risque vers une économie de la consommation aux éditions de l'Aube en 2016. Un grand merci à tous les deux.
Dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I'm
suite, c'est l'heure de retrouver le tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Tiphaine.
Sort cette semaine un recueil d'articles d'un philosophe polonais pour lequel vous avez beaucoup d'estime. Le titre sous lequel ils sont publiés attire l'attention. Comment être socialiste, plus conservateur, plus libéral? Cet œcuménisme est bien étrange.
Avancez vers l'arrière, s'il vous plaît. Cette injonction en forme oxymorique, entendue dans un tramway de Varsovie, plut beaucoup au philosophe Leszek Kołakowski. Elle lui donna l'idée d'en faire le mot d'ordre d'une nouvelle internationale, une internationale qui regrouperait tous ceux qui se reconnaîtraient en effet dans un credo socialiste, conservateur, libéral. Et Kołakowski doit ramasser en trois points ce que chacune de ces familles de pensée a de meilleur à offrir. Les socialistes ont raison de soutenir qu'on ne doit pas se résigner aux inégalités sous prétexte que l'égalité absolue est impossible. Les conservateurs n'ont pas tort de faire observer que toute amélioration dans un domaine risque de se payer par une détérioration ailleurs. Et les libéraux sont fondés à réclamer qu'on ne sacrifie pas la liberté à la sécurité. Le socle commun à ces trois devises, issues de familles politiques que tout oppose, c'est l'idée, chère à Kołakowski, qu'on ne peut pas poursuivre toutes les valeurs à la fois. Politiquement, Kołakowski professait la plus extrême méfiance envers le mythe du grand soir. Il ne croyait pas en la possibilité d'une rupture historique qui nous ferait soudain basculer dans quelque âge d'or. Il avait étudié d'assez près la tentation millénariste dans les sectes chrétiennes pour ne pas l'avoir très vite repérée chez les communistes. Le bien tout entier et absolu n'est pas de ce monde, non plus que la possibilité d'en éradiquer définitivement le mal. En libéral, il estimait que l'art de la politique consiste à concilier les contraires en dosant au mieux la liberté et l'égalité, l'innovation et la sécurité, l'émancipation de l'individu et la résistance du tissu social. Les valeurs, disait-il, ne peuvent se réaliser qu'à travers des compromis. Mais, comme les sociaux-démocrates, il croyait à la possibilité et la nécessité des améliorations ponctuelles. Aux yeux de Kołakowski, deux options contradictoires bloquent nos intentions réformatrices. Et elles sont toutes les deux des survivances de croyances religieuses. La première nous vient des adorateurs du monde tel qu'il est, le joyeux et féroce acquiescement à la vie d'un Nietzsche. C'est la tentation panthéiste. La nature est divine et il faut laisser la sélection naturelle élire les plus aptes. La seconde considère le monde d'ici-bas comme le règne du démon, le corps comme la source du péché et les échanges spontanés entre les hommes comme immoraux. C'est la tentation gnostique. Alors les premiers concluent de leur assentiment à l'ordre naturel qu'il ne faut toucher à rien. Les seconds méprisent trop le monde d'ici-bas pour éprouver la tentation de l'améliorer. Ou alors, ils sont tentés par le grand chambardement révolutionnaire, par le chaos salvateur, la violence accoucheuse de l'histoire.
Bizarre ce mélange de religion et d'idéologie politique. Votre Leszek Kołakowski était-il un militant ou un ecclésiastique, Brice?
Eh oui, Tiphaine, il y avait beaucoup de soutanes en Pologne, et même durant la période communiste, et c'est d'ailleurs un cas assez unique en Europe centrale. Mais Kołakowski, même s'il fut très proche du pape polonais Jean-Paul II, n'avait rien d'un ecclésiastique. Il a adhéré très jeune au Parti communiste polonais, immédiatement après la guerre. À cette époque, il a commencé à étudier l'histoire des sectes chrétiennes qui le fascinaient, et sa pensée politique est demeurée imprégné des catégories intellectuelles qu'il avait mises au jour au cours de cette étude. Il manifeste cette même curiosité pour les sectes marxistes dans son ouvrage de 1200 pages « Main Currents of Marxism » paru en anglais en 1978. Kołakowski, entre nous, se plaignait que son éditeur français n'ait édité que les deux premiers volumes. Le troisième, qui porte sur des auteurs comme Gramsci, Lukács ou l'école de Francfort, n'ayant jamais été rendu accessible au public français. Il parlait d'une censure. Sa déception envers le communisme de sa jeunesse fit très tôt de Kołakowski l'un des phares de ce qu'on allait appeler plus tard la pensée antitotalitaire. Sa manière habituelle de critiquer le communisme était de confronter les promesses mirobolantes contenues dans les textes sacrés des grands doctrinaires aux réalités sordides et déprimantes de la vie quotidienne en démocratie populaire. À partir du dégel qui suivit la mort de Staline et la dénonciation de ses crimes par son successeur Nikita Khrouchtchev, le parti toléra une espèce d'opposition larvée de la part de certains intellectuels. Il lui était difficile en effet de jeter en prison des professeurs d'université qui critiquaient le pouvoir au nom de sa propre idéologie, le marxisme. Mais en 1968, L'année où les troupes du pacte de Varsovie écrasèrent l'expérience de socialisme à visage humain en Tchécoslovaquie, les dirigeants communistes polonais expulsèrent les révisionnistes accusés d'avoir soutenu une révolte étudiante. Cette vaste purge avait d'ailleurs une dimension antisémite implicite. La majorité des expulsés étaient juifs et accusés de tendance sioniste. Kołakowski, qui parlait aussi bien polonais que français, allemand et anglais, a pensé s'établir en France, le pays dont ce voltairien se sentait le plus proche, mais les dissidents étaient encore assez mal vus de notre intelligentsia universitaire à cette époque. Et finalement, ce fut le plus prestigieux des collèges d'Oxford, All Souls, qui sut l'attirer. Et il y demeura jusqu'à sa disparition en 2009.
Merci beaucoup Brice, et merci également à toute l'équipe, Anne-Sophie Pierry, Samuel Bernard, Clémence Alzard, et derrière la vitre de la régie, Alexandre Fougeron et Pierrick Monsigny. Dès demain, vous retrouverez Florian Delorme pour parler d'union monétaire, peut-être destinée à disparaître, on le verra demain.